Voilà, bonjour à tous et à toutes. Grâce à Dieu, on revient à notre séminaire Chai. Et c'est un sujet libre, mais en vérité, vous savez très bien qu'un sujet libre, c'est tout simplement parce que bon, j'ai pas voulu au départ, des jours à l'avance, fixer un sujet. Je trouve que la spontanéité apporte beaucoup plus que lorsque l'on est déjà coincé à l'avance dans une idée bien précise. Et le sujet que je voudrais évoquer avec vous aujourd'hui, puisqu'on s'approche du don de la Torah, c'est fin de semaine prochaine la fête de Shavuot, donc il nous reste quelques jours avant Shavuot. Le sujet que je voudrais évoquer, c'est le sujet de l'ego. C'est un sujet dont j'ai déjà beaucoup parlé, mais aujourd'hui on va en parler plus encore grâce à vos questions. Puisque comme vous le savez, j'attends avec impatience vos questions. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de suivre l'exposé que je fais. Vous pouvez poser des questions dans d'autres domaines aussi, puisque le sujet est un sujet libre. Mais malgré tout, je voudrais revenir sur un point important. Nos maîtres expliquent, de nombreux commentaires expliquent que finalement, tant qu'un homme est prisonnier de son ego, il vit dans l'illusion totale, dans les deux sens. C'est-à-dire que non seulement il ne sait pas du tout qui il est, mais en plus, il n'a aucune vision réelle du monde. Il vit dans une illusion totale, comme dans un rêve. D'ailleurs, vous savez que le roi David nous a déjà transmis dans les psaumes cette notion où il dit qu'au moment de la délivrance, tous s'apercevront que, en hébreu, « vaïnu kecholmim », que toute l'histoire n'était que comme un rêve. Et les commentaires posent la question et ils disent « Mais enfin, comment le roi David peut dire que toute l'histoire humaine n'était que comme un rêve, alors que on l'a vécu quand même cette histoire ?» Et certains commentaires, ceux que je préfère, expliquent qu'en vérité le roi David fait justement allusion à ce point, le point de l'ego. Que toute l'histoire humaine, finalement, est le résultat du culte de l'ego. Et c'est pour ça que c'est comme un rêve, parce que finalement, c'est qu'une illusion. Tous nos besoins, toutes nos envies, toutes les raisons pour lesquelles on se bat et on se fait du mal ou on fait du mal aux autres, tout ça, c'est le produit de nos fantasmes, de nos illusions qui sont la conséquence directe du culte de l'ego. Et moi, et moi, et moi. Au niveau individuel et multiplié par des milliards au niveau des peuples et au niveau des dirigeants des peuples. Et c'est pour ça que le roi David nous dit que toute l'histoire humaine n'aurait été qu'un rêve, en ce sens que toutes les choses pour lesquelles on s'est battu, toutes les choses pour lesquelles on a vécu, tout ce qu'on a désiré, tout ce qu'on a repoussé, tout ça était une pure illusion et on est passé complètement à côté de la réalité vraie, au point que l'histoire ne commencera véritablement qu'avec la délivrance finale, où l'une des choses les plus importantes que va réaliser le Mashiach, c'est de détruire l'ego qui est dans chacun d'entre nous, et qui est surtout au niveau des peuples, des nations, des religions, des idéologies, des philosophies, que chacun se prend pour le meilleur, chacun pense qu'il est le seul à avoir compris, et chacun veut imposer son ego aux autres. Et c'est pour ça que finalement, pendant des millénaires, l'histoire n'a pas commencé. Exactement comme quelqu'un rêve, et il a un cauchemar, et il se met à hurler, il se met à suer, mais quand il se réveille, il se rend compte que, même si effectivement il a ressenti des choses, qu'il a vécues, puisqu'il sue, il a eu peur, il a crié, mais ce n'était qu'un rêve. Même s'il a vécu ce rêve, au point que ça agit sur son corps, ce n'était qu'un rêve. Et le roi David nous révèle encore une fois dans les psaumes que toute l'histoire humaine n'est qu'un rêve. Azaïnu kecholmim, on se rendra compte qu'on n'a fait que rêver, on n'a jamais vraiment vécu. Maintenant, cette notion est vraie aussi sur le plan individuel. Tant qu'une personne est prisonnière de son ego, même s'il va vivre 80 ou 85 ou 85 ans ou 90 ans ou plus, il se peut que toute sa vie soit un fantasme. Parce que l'ego nous fait vivre un fantasme jusqu'à ce qu'on arrive à s'en débarrasser. on n'a encore une fois aucune perception de ce que nous sommes, du pourquoi nous existons, ce que nous devons réaliser, et toute notre vision du monde est complètement fausse. On ne voit pas du tout ce qui se passe, on ne comprend rien à ce qui se passe, on ne fait que finalement interpréter notre manière à nous de voir le monde, qui n'est qu'une pure illusion. Ce qui veut dire que finalement la raison véritable pour laquelle nous sommes descendus dans ce monde, c'est pour casser l'ego. Je vous ferai remarquer, je l'avais déjà fait de nombreuses fois, que vous imaginez bien que Moïse, que Moshe avait d'énormes qualités. D'après les maîtres des secrets, il possédait en lui les 10 sphirotes, les 10 attributs divins. Ça veut dire qu'il avait la qualité de la chorma, de la sagesse, de la bina, de la compréhension. Il avait le chesed, il avait la bonté, il avait la gvura, il avait la force, il avait toutes les qualités représentées par les 10 attributs. Et pourtant, on s'aperçoit dans la Torah que quand la Torah nous parle de la qualité, même pas des qualités, de la qualité de Moshe, la seule et unique dont la Torah parle, c'est qu'il était le plus humble des hommes. Pourquoi il n'avait que cette qualité? Attends, je ne comprends pas un homme qui a eu le courage d'affronter Pharaon et de savoir qu'à chaque milliardième de fraction de seconde, il mettait sa vie en danger. C'est aussi une qualité incroyable, un courage, un don de soi pour le peuple juif absolument incroyable. Il s'est mis en danger, il a affronté le plus grand de tous les dictateurs de l'histoire humaine pour pouvoir sauver son peuple. Ce n'est pas une qualité fabuleuse, pourquoi la Torah n'en parle pas? Et quantité d'autres qualités. Quand il est monté sur le mont Sinaï, pendant la Torah nous dit, bon, je ne sais pas à quel niveau il faut le prendre, mais qu'il n'a pas mangé, il n'a pas dormi pendant 40 jours. Ce n'est pas un acte de sacrifice incroyable pour pouvoir amener la Torah au peuple juif, donc un acte de chesed, de bonté incroyable. Et quantité d'autres choses, il avait donc toutes les qualités. Pourquoi la Torah ne parle que de l'humilité? Parce que l'humilité, c'est le symbole de la destruction de l'ego. Et la Torah ne retient que cette qualité, parce que finalement la Torah ne parle que de la qualité pour laquelle l'homme est venu dans ce monde. Parce qu'en vérité, on peut avoir toutes les autres qualités et malgré tout avoir l'ego. Un homme peut être un homme très bon, très généreux, mais c'est d'une certaine manière pour flatter son ego, parce que les gens vont parler de lui. Un homme peut être très courageux, très fort, mais c'est pour pouvoir avoir la décoration du meilleur soldat ou du meilleur officier, pour que l'histoire parlera de lui. Un nouveau Alexandre le Grand, ou peu importe. Un nouveau Hercule. Donc effectivement, Hercule s'est mis en danger des milliers de fois. Mais tout ça, c'est pour son ego. Le monde entier ne vit que pour l'ego. Et même quand on fait des choses extraordinairement bien, le véritable pourquoi je le fais, il n'y a que moi qui le sais. C'est pour moi. Ça veut dire, même quand on fait du bien en vérité, ça ne peut être que le produit de l'ego. C'est pour ça que la Torah n'est pas du tout intéressée de dire que Moshe était un homme courageux, un homme qui se sacrifie, un homme bon, un homme généreux. La Torah n'en a strictement rien à faire de ça. Parce que la seule chose qui intéresse la Torah, c'est oui, mais où est ton ego? Tu le fais vraiment pour le monde ou tu le fais pour toi? Et 100% des hommes, tout ce qu'ils font, ils le font pour eux-mêmes. Le seul et unique dans toute la Torah sur lequel il est dit qu'il n'avait plus d'ego, il était le plus humble des hommes, c'est Moshe Rabbeinu. Et c'est la raison pour laquelle il a reçu la Torah et l'a transmise. De là, on comprend quelque chose d'extraordinaire aussi, dont je parle constamment. Ce que j'appelle la religion, qui sont toutes des fausses religions. Tant qu'un homme a de l'ego, toute sa perception de Dieu est un pur fantasme. C'est pour ça que je ne cesse de dire que toutes les religions, toutes les idéologies, toutes les philosophies ne sont que des illusions. Comme Marx disait, l'opium des peuples. Pourquoi? Parce que qui me garantit que les hommes qui ont dévoilé ce qu'ils ont dévoilé n'étaient pas eux aussi prisonniers de leur ego? Qui me le dit? On a été voir comment ils étaient à l'intérieur pour être sûr qu'ils n'étaient pas eux-mêmes prisonniers de leur ego. Alors pourquoi je leur fais confiance? Puisque nos maîtres nous affirment que toute perception d'un homme, aussi haute soit-elle, d'un homme qui n'est pas nettoyé de son ego, n'est qu'une illusion, n'est qu'un fantasme. Et encore une fois, c'est la raison pour laquelle Hachem insiste pour dire que je me fiche de toutes les qualités de Moshe, la seule qui m'intéresse, c'est qu'il n'est pas d'ego, il est le plus humble des hommes. Je vous signale qu'il y a trois personnages dans la Torah, et vous verrez, c'est extraordinaire, qui justement sont définis comme des gens qui ont tué leur ego. Avraham a dit devant Hachem, « Anori afar ve'efer, je suis de la poussière, je suis de la cendre, je ne suis rien, je suis comme la plus vile des matières. » Moshe Rabbeinu a dit, « Ve'nachnouma, je ne sais même pas me définir, je ne suis qu'une question, je n'ai aucune réponse à ce que je suis. Est-ce que je suis intelligent? Est-ce que je suis bon? Est-ce que... Non! Je ne sais même pas qui je suis une question sans réponse. » Et le roi David qui dira, « Anori tolaad velo ish » dans les psaumes, « Je suis un vermisseau, je ne suis même pas un être humain. » Et regardez, pourquoi ces trois-là? Parce que chacun représente quelque chose de fondamental. Abraham, le créateur d'une nation, Moshe, le donneur de la Torah, et David, la royauté. Ça veut dire que chacun a apporté une des trois dimensions qui construisent un peuple, la racine d'un peuple, d'où vient-il, Abraham? On pourrait dire après l'idéal d'un peuple, la Torah donnée par Moshe, et d'une certaine manière la puissance d'un peuple, la malchoute, la royauté donnée par David. Et les trois personnages ont en commun que les trois refusent de se définir comme un être humain. Je suis de la poussière, je suis de la cendre, dit Abraham. Je ne sais même pas qui je suis, dit Moshe. Je suis au plus un lézard. Tolaat, c'est un vermisseau, un lézard. Je suis Veloï, je n'ose même pas dire que je suis un homme, dit le roi David. Donc, casser son ego. Maintenant, la question est, comment un homme peut être sûr qu'il casse son ego? Parce que finalement, comment je peux savoir? Si je suis quelqu'un de très bien, très gentil, très généreux, si je passe mon temps à aider les autres, je peux très bien tomber vite dans l'illusion de croire que j'ai cassé mon ego. Alors, comment je peux être sûr que je n'ai plus d'ego? Rabbi Nachman révèle un point fabuleux. Et là, c'est un test que l'on peut tester tous les jours. Si quelqu'un subit une humiliation, une humiliation, on vient, on l'humilie, on le critique, on le blesse, sans aucune raison, ou celui qui l'humilie, qui le blesse, se fait des idées sur lui et l'accuse d'être ce qu'il n'est pas, et qu'il se tait, il ne répond pas, il comprend que ce qu'il est en train de traverser, c'est un signe d'Hachem pour l'aider à casser son ego, et qu'il ne répond pas, et qu'il ne tient aucune rigueur, aucun sentiment de vengeance et de haine ou de colère à l'égard de celui qui injustement l'a humilié et critiqué, c'est la preuve que lui est en train de casser son ego. C'est le seul test possible, dit Rabbi Nachman, pour être sûr que l'on travaille sur son ego. Si je suis l'homme le plus généreux de la terre, je suis l'homme le plus courageux de la terre, je suis l'homme qui est prêt à me sacrifier 1000 fois pour les autres, et encore et encore et encore, ce n'est absolument pas la preuve que j'ai cassé mon ego. Mais si quelqu'un vient, et précisément quand je suis quelqu'un de bien, qui fait des choses bien, et que quelqu'un vient, ou que de nombreuses personnes viennent, et m'humilient, me rabaissent, me critiquent, et que je sais que toute la vision qu'ils ont de moi est fausse, et que je ne réponds pas, j'accepte l'humiliation et je ne cherche pas à me venger, je ne cherche pas à reprendre le dessus, j'accepte les choses, c'est la preuve que je tue mon ego. C'est la seule preuve qu'on a. Et je dois encore une fois, je me répète, comprendre que c'est Hachem qui me fait ce cadeau incroyable pour m'aider à sortir de tous les fantasmes et de toutes les illusions dans lesquelles vive l'humanité tout entière et de rentrer dans la vraie réalité, de voir le vrai monde, de savoir qui je suis et de vivre comme un solitaire dans un monde de rêves où je serai l'un des rares à vivre la vraie vie. Et tout le monde vit dans une illusion, tout le monde vit dans un fantasme et moi j'ai cassé mon ego et je commence à rentrer dans la vraie vie. Rabbi Nachman va beaucoup plus loin encore. Il dit, à quoi ressemblent toutes les critiques qu'un homme bien traverse dans sa vie? C'est comme de l'eau que l'on verse sur une graine pour la faire pousser. Regardez jusqu'où il va. Une graine qui est dans le sol, comme on le sait, pour qu'elle se transforme en plante, en arbre, elle a besoin d'eau. Sans eau, elle ne pourra pas pousser. Et il va jusqu'à nous dire que toutes les insultes et toutes les critiques qu'un homme traverse dans sa vie, c'est de l'eau que Hachem lui verse pour l'aider à grandir, pour l'aider à pousser, pour l'aider à sortir de sous la terre et de s'élever, de devenir une créature, un être véritable. Ça veut dire qu'en vérité, on devrait dire merci à chaque personne qui nous critique. Encore une fois, je ne parle pas que l'on critique un voyou, un homme corrompu, ou le dirigeant d'un pays. Vous avez compris, je blague. Je ne blague pas. Parce que cela, c'est évident qu'on peut les critiquer. Parce que cela, évidemment que la critique, elle est fondée. C'est pas de ça que je parle. Et d'ailleurs, quand tu critiques un voyou, un gangster ou un président de la République, tu peux être sûr que ça va très 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 mal se passer pour toi. Puisque eux, c'est le culte de l'ego. C'est pas de eux que je parle. Je ne parle pas d'une critique adressé à l'égard de quelqu'un qui en mérite 1000. Je parle que quand on me critique sans aucune raison et je sais que la personne se fait des idées sur moi qui sont complètement fausses et que j'aurai toutes les raisons, même honnêtes, fondées, de répondre et que je ne réponds pas. Là, je dois comprendre qu'en vérité, que celui qui me critique n'est qu'un instrument entre les mains d'Hachem pour m'aider à pousser, pour m'aider à grandir. Et c'est comme de l'eau que l'on verse sur une graine pour qu'elle puisse devenir un arbre fabuleux. Maintenant, c'est sûr que c'est sans doute la chose la plus dure à réaliser. Parce qu'encore une fois, si je sais que j'ai fait de graves choses et qu'on vient et qu'on me fait le reproche, bon, ou je suis une ordure et je me venge, où je suis plus ou moins honnête, et bon, je me tais parce que je sais que j'ai fait des graves choses. Mais là, la raison pour laquelle je me tais, c'est parce que je sais que l'autre a raison. Mais si je sais que je n'ai rien fait, qu'on vient et qu'on me critique, et que malgré tout je ne réponds pas, mais pourquoi tu ne réponds pas? Il n'a pas à te critiquer, explique-lui qu'il a tort, explique-lui qu'il se trompe. Pourquoi tu ne réponds pas? Parce qu'en vérité, lui ne m'intéresse pas. Je comprends que c'est une épreuve pour m'aider à casser mon ego. Dans tous les domaines de la vie, nous avons ce problème-là. Et peut-être la source, la racine de ce problème-là, comme je le dis souvent, c'est dans le couple. 99,9% des couples qui se séparent, qui ne s'entendent pas, qui divorcent ou qui vivent l'un à côté de l'autre, mais pas l'un avec l'autre, c'est un problème d'ego. Comment tu as osé me parler sur ce ton-là? Comment tu as osé me dire ça? Comment tu as osé me répondre de cette manière-là? C'est l'ego. Et donc, à partir de là, ça part dans tous les sens. Mais c'est un problème d'ego. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai déjà expliqué des milliers de fois que la Torah nous dit que la raison pour laquelle l'homme et la femme ont été créés, c'est parce qu'elle s'appelle Ezer Kenegdo. Elle est là pour l'aider en étant contre lui. En étant contre lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va taper sur son ego. Et vice-versa, bien sûr, ça va dans les deux sens. chacun tape sur l'ego de l'autre. Et pourquoi aujourd'hui plus personne ne se marie? Pourquoi aujourd'hui il y a 1 million de fois plus de divorces que de mariages? Et encore 1 million, je suis loin du compte. Pourquoi? Parce qu'on est dans une génération où jamais l'ego a été aussi religieusement respecté que dans notre génération. Comme je dis toujours, arrêtez de nous parler du monde laïque. Le monde laïque est la plus grande et la plus terrifiante de toutes les religions qui n'ont jamais existé sur Terre. C'est quoi? Le culte de l'ego, le dieu ego. Ça n'existe pas un monde sans religion. Ça n'existe pas. Impossible qu'un homme n'ait pas foi en quelque chose. Et dans le monde soi-disant laïque, la religion, c'est le culte de l'ego. Le dieu ego, et moi, et moi, et moi. Ça a toujours existé, mais dans notre monde laïque, pire que jamais. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu autant de divorces, autant de gens qui ne se marient pas que dans notre génération. Parce que dans notre fond intérieur, on a peur de la confrontation avec l'autre. Donc on ne veut pas se lier avec quelqu'un, parce que comment qu'on va le supporter après? Il y aura trop de tension. Et moi je ne supporte pas qu'on me touche à mon ego. Donc en vérité, la seule et unique chose qu'un homme doit faire sur terre pour véritablement devenir un homme qui existe réellement, Rabbi Nachman va jusqu'à dire que quelqu'un qui a de l'ego, il n'existe pas. C'est-à-dire que pas seulement toutes ces pensées, toutes ces paroles, toutes ces actions sont de l'illusion, même lui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'existe pas. Il croit qu'il existe, il se touche, il croit qu'il existe, mais même lui n'existe pas. Et encore une fois, l'exemple du rêve est excellent, comme le dit le roi David. Parce que dans un rêve, je vois quelqu'un qui vient pour me tuer, j'hurle. Mais c'était qu'une illusion, et pourtant j'ai hurlé, j'ai eu peur, j'ai eu des sentiments réels, un ressenti réel. Mais ce n'était qu'une illusion. Ce qui veut dire, vous imaginez que je suis en train de vous parler, je me touche, j'ai l'impression que j'existe, et peut-être que je ne suis qu'une illusion. Dites-moi, vous savez ce que nos maîtres nous disent? Nous, on croit qu'il y a 7 milliards de personnes sur Terre. C'est même pas sûr qu'il y en ait 10. Mais je vais donner un exemple très simple. Très, très simple. Imaginez-vous que vous êtes dans un endroit où des projecteurs vous envoient des images de gens qui semblent être à côté de vous. C'est possible aujourd'hui au niveau de la technologie. Je peux très bien être là et un projecteur va créer une image à côté de moi de quelqu'un que j'ai l'impression qu'il est, tant que je ne le touche pas et que je ne me rends pas compte que c'est du virtuel, je peux croire que c'est du réel. Eh bien nos maîtres, il y a des millénaires, vont jusqu'à nous dire que tout ce qu'on croit en vérité être la population du monde, c'est en vérité une pure illusion. Les seules véritables créatures qui sont véritablement dans ce monde, c'est ceux qui n'ont plus d'ego. Vous imaginez qu'on peut vivre toute une vie, avoir des ressentis, des larmes, des joies, des moments de bonheur, des moments de peine, et puis que quand arrive le dernier jour, on se rend compte que finalement on n'a jamais existé. C'est dur à accepter, hein. C'est dur. C'est pour ça que finalement, d'une autre manière, le seul et unique critère, la seule et unique preuve de deux personnes qui existent véritablement, c'est au niveau d'un couple parfait. Quand je dis parfait, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de dispute, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de querelle et de tension, mais ils arrivent toujours à les surmonter. Et ils vivent l'un avec l'autre et pas l'un à côté de l'autre. C'est la seule et unique garantie sur Terre qu'on existe véritablement. Sinon, on n'est qu'une illusion. Et on aurait une idéologie qui serait une illusion. On aurait une religion qui serait une illusion. On aura un Dieu qui serait une pure illusion. On aura des envies qui sont de pures illusions. On aura des joies et des tristesses qui ne sont que pure illusion. On ne vit que dans l'illusion. Voilà ce qui va se passer. Alors maintenant, avant d'arriver à vos questions, vous comprenez maintenant mieux pourquoi les 7 semaines qui séparent la sortie d'Égypte, Pessah, du don de la Torah, Shavuot, correspondent à 7 qualités sur lesquelles il faut travailler. Mais la dernière qualité qui correspond à la dernière semaine, on va rentrer dans la dernière semaine mercredi soir, jeudi, la dernière semaine avant le don de la Torah, c'est la qualité de la Malchut, mot à mot la royauté. Et c'est la dernière qualité. Et on sait très bien ce que nos maîtres nous expliquent, que quand il y a un énoncé, un parcours, la dernière étape, c'est la finalisation, le but, le pourquoi qu'il fallait atteindre. Et toutes les autres étapes ne sont que des préparations. Or, c'est quoi la Malchut? La Malchut, c'est quoi? Prenons-le même dans le sens le plus simple, pas comme j'explique toujours, celui qui défonce les obstacles, etc. Mais d'abord à un niveau simple. Un roi, c'est quelqu'un qui a une certaine importance, qui a un pouvoir. Pourquoi c'est la dernière des qualités, le but de toutes les qualités? C'est fabuleux. C'est qu'en vérité, comment qu'on peut savoir? Parce que là, si je n'avais pas dit ce que je vais dire maintenant, je pense que vous auriez tous mal compris ce que j'ai dit. Comment je peux savoir que je n'ai pas d'ego? Si je frôle les murs quand je marche, je baisse la tête, comme ça, je vis comme un moine dans un monastère? Non. Quand j'ai la réussite, quand j'ai un certain pouvoir, quand je brille, et que malgré tout je suis arrivé à ne pas me prendre du tout au sérieux, au point que malgré ma réussite, malgré mon pouvoir, malgré ma lumière, si quelqu'un vient et me critique, et même s'il a complètement tort, je ne l'entends même pas, ça ne me fait rien, ça ne me bouge pas. Comme dit le proverbe français, les chiens aboient et la caravane passe. Et moi j'explique toujours, c'est justement pour que la caravane puisse passer, il faut que les chiens aboient. C'est la critique qui te permet d'avancer. Ça veut dire que si j'ai des qualités et que malgré tout je ne me prends pas au sérieux, ça c'est la preuve que j'ai tué mon ego. Mais si je suis pauvre, si je suis bête, si je frôle les murs et que je baisse la tête, il n'y a aucune preuve que tu n'as pas d'ego. C'est ce que le roi Salomon a dit dans Michelet, dans les Proverbes. Il le dit, je le traduis en français, il dit une chose extraordinaire. Comment un homme peut savoir qu'il est humble quand il est fort, riche, puissant, qu'il a tout pour devenir un monstre d'ego et qu'il reste humble? Là, tu peux être sûr qu'il a réussi sa vie. C'est pour ça que la dernière des qualités est la Malchut. Qu'est-ce que ça veut dire à mon niveau à moi? Je ne serai jamais un roi, ni vous. Ça veut dire que Malchut, dans le sens que si j'arrive à une certaine réussite dans ma vie, au point que les autres me voient comme quelqu'un de grand, de fort, et que malgré tout, je ne me prends absolument pas au sérieux, ça c'est la preuve que j'ai réussi ma vie, et que ma vie est une vraie vie. Ce qui veut dire que l'humilité, mes amis, c'est pas frôler les murs avec la tête baissée. Non, non, non. La Torah veut pas faire de nous des curés ou des rabbins. Non. La Torah veut faire de nous des hommes forts, puissants, intelligents, brillants, qui réussissent, mais qui en même temps, se voient comme moins que rien. Comme s'ils n'existaient pas. Tellement ils ne se prennent pas au sérieux. Et bien dites-moi, Abraham, c'était pas un géant? Et il a dit, je suis de la poussière. Moshe, c'était pas un géant? Et il a dit, je sais même pas qui je suis. David, c'était pas un géant? Et il a dit, je suis comme un reptile, je suis même pas un homme. Ça veut dire que, ici, on comprend encore une fois quelque chose d'extraordinaire. La grandeur au niveau qualité d'un homme, c'est d'être à la fois tout en haut et de se voir comme étant tout en bas. C'est ce qu'il y a le plus difficile à atteindre. Parce que quand je suis un homme extrêmement intelligent, extrêmement riche, extrêmement fort, extrêmement connu, tout le monde parle de moi, comment voulez-vous que je puisse ressentir que je ne suis rien? C'est très très dur. C'est pour ça que je comprends ce que nos maîtres nous disent, que sur 7 milliards de personnes qu'on voit autour de nous, il y en a peut-être 10 même pas qui sont des vrais vivants dans ce monde. Tout le reste sont des illusions qui bougent. De pures illusions qui bougent. Ils n'ont jamais existé, ils ne sont pas dans ce monde. C'est du virtuel. Incroyable. Incroyable. Et c'est pour ça, et je reviens sur cette idée et je termine, que le test fondamental pour savoir si oui ou non on est en train de tuer notre ego, est-ce que tu acceptes la critique? Est-ce que tu acceptes les reproches? Est-ce que tu acceptes qu'on t'humilie et que tu ne réponds pas parce que tu as compris que c'est un test pour tuer ton ego? Et précisément quand ceux qui t'humilient n'ont aucune raison et aucun droit de le faire parce qu'ils se trompent totalement. Là, c'est la preuve que tu tues ton ego et tu vas devenir comme une graine qui va se transformer et devenir un arbre fabuleux, un arbre somptueux. Voilà, on va passer à vos questions maintenant, mes amis. Alors. Alors, bonjour Rav, Brash. Connaître son mazal peut aider à casser son ego. Qu'en pensez-vous? Soyez un petit peu plus clair, cher ami, parce que je n'ai pas bien compris ce à quoi vous faites, vous, allusion quand vous parlez de mazal. Reposez-moi la question, parce que j'ai du mal à comprendre. Christine Bruno, mais l'ego n'est-il pas aussi un moyen et non une fin? Un ego construit? J'ai pas de chance ce matin parce que, à nouveau, j'ai pas compris la question. Alors, ou je suis très fatigué, ou c'est vous qui n'êtes pas suffisamment clair. Mais je n'ai pas compris, Christine, la question, l'ego un moyen et non une fin. Julie, bonjour Rav. Est-ce que vous connaissez les Near Death Experience, expérience de mort imminente? Ça change notre vision de la vie. Ouais, j'ai vraiment pas de chance ce matin parce que là aussi j'ai pas bien compris. Non, je ne connais pas cette expérience qui s'appelle expérience de mort imminente et je ne sais donc pas en quoi ça change notre vision de la vie. On continue. Espinoza, bonjour Rav. Il y a un débat sur le monde après Mashiach dans le Talmud et entre Rambam et Ramban et Ravad, qu'en pensez-vous? Le monde continuera normalement ou y aura-t-il des miracles et des choses qui vont au-delà de la nature? Alors, je vais vous donner mon point de vue à moi, et avec beaucoup d'ego, je vais vous dire c'est moi qui ai raison. D'accord? Celui qui s'imagine, cher ami, que quand le Mashiach va venir, on va tous se retrouver au Martinique ou en Guadeloupe avec les pieds dans le sable, avec un parasol, et puis ça y est, on est au paradis. Je veux dire, j'ai même pas de mots pour lui répondre, tellement il est en dessous même de on peut même pas dire que c'est un imbécile, même pas que c'est un idiot, il a même pas commencé à exister. J'ai dit tout le contraire. Toute l'histoire humaine depuis la faute de Adam n'est qu'une pure illusion. Nous n'avons même pas encore commencé l'histoire humaine. On ne vit que dans du virtuel, qui fait mal, qui nous fait souffrir, qui nous apporte aussi des joies, comme quelqu'un qui rêve et qui se retrouve sur une île déserte et qui se met à rire dans son rêve et il kiffe dans son rêve, mais ce n'est qu'un rêve. L'histoire humaine va commencer précisément avec la venue du Mashiach et on se rendra compte qu'on a perdu des millénaires d'illusions. Maintenant, l'histoire humaine va commencer, mais la vraie. Et on n'a pas été créé pour se faire bronzer sur une île en plein Pacifique. Je voulais que je vous dise, mais rien que de penser que je pourrais me retrouver dans le paradis avec de la lumière toute la journée et plus d'épreuves, plus de difficultés, plein d'affaires, mais je préfère qu'on me mette en enfer. Oui, je le dis, je préfère qu'on me mette en enfer. Mais vous imaginez, pendant l'éternité, on va se faire bronzer par la lumière divine. Mais comment qu'on pourrait imaginer que le bon Dieu nous fasse un sale coup pareil? Toutes ces inventions de paradis sont les inventions de toutes les fausses religions. Il n'y a pas de paradis. C'est une pure illusion. L'homme a été créé pour travailler. L'homme a été créé pour se dépasser. L'homme a été créé pour se surpasser. L'homme a été créé pour faire des efforts. Et, cher Espinoza, je vais vous rapporter, vous savez, c'est peut-être un petit peu prétentieux pour un cours sur l'ego, mais ça fait des années que je le dis. Je ne sors jamais un mot de ma bouche quand j'enseigne qui n'a pas une source dans la Torah. Tout ce que je dis est marqué dans le Talmud. Nos maîtres nous disent « Talmidei chachamim en la'em menucha lo ba'olam haze velo ba'olam haba sheneemar vayilchu michayil el chayil » Je traduis, d'accord ? Les hommes authentiques n'auront jamais de repos, ni dans ce monde, ni dans l'autre monde, car ils iront de combat en combat. Mais vous vous rendez compte ce que nos maîtres nous disent ? Ni dans ce monde, ni dans l'autre monde, car ils iront de combat en combat. Quoi, quand le Mashiach va venir, on va continuer à se battre ? Mais drôlement ! Parce que dans ce monde, tu as combattu, mais dans un monde d'illusions. Mais dans l'autre monde, tu vas te battre, mais dans un vrai monde. Le paradis n'existe pas et n'existera jamais. La pire des choses que le bon Dieu pourrait nous faire, d'accord, c'est de nous mettre au paradis. Laissez toutes ces bêtises-là pour toutes les religions, pas pour la Torah. L'homme a été créé pour être un héros, pour être un homme vrai, authentique, qui doit affronter des difficultés et qui doit les surmonter et avancer vers une autre difficulté, la surmonter et avancer, et ceci pour l'éternité. Tout celui qui vous parle de paradis, qu'il soit juif ou non juif, est un charlatan. Le paradis n'a jamais existé, il n'existe pas et n'existera jamais. Dieu a créé l'homme pour que, pour l'éternité, il soit un combattant qui avance, qui fonce et qui défonce. Maintenant, le projet va devenir de plus en plus sublime, de plus en plus extraordinaire. C'est pour ça qu'on va devenir des hommes gigantesques. On ne peut même pas imaginer ce qu'on sera. Quand on va enfin rentrer dans la réalité vraie. Mais le paradis, d'accord, c'est uniquement pour la religion opium. Et pour tous ces hommes du faux Dieu qui nous saoulent depuis des millénaires avec leurs mensonges. Et grâce à Dieu, bientôt on se débarrassera de toutes les fausses religions et on rentrera enfin dans la vraie relation avec le vrai Dieu. Alors, Marc, quelqu'un qui dit « Je suis un lézard », comment peut-il être crédible ? Il faut que cela ait, il faut qu'il ait une personnalité très forte, une idée de lui-même au-dessous de la normale, n'est-ce pas ? De l'ego également, peut-être même un ego surdimensionné. Ouais, j'ai du mal à comprendre. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce matin. Quelqu'un dit « Je suis un lézard ». Comment donc, David, peut-il être crédible ? Non, j'ai compris. Non, non, non. Parce que justement, quand quelqu'un dit « Je ne suis rien », c'est parce que justement, il sort de son ego. C'est-à-dire qu'il se met au niveau de la grande image. Donnons un exemple. Même si David était immense par rapport à Moshe, c'est ce qui ne lui arrivait pas à l'ombre de sa chaussure. Dans beaucoup de domaines, en tous les cas. Pas dans le domaine de la royauté, puisque Moshe n'était pas un roi et David était un roi. Mais dans d'autres domaines. David n'a pas reçu la Torah directement d'Hachem. Moshe n'a jamais eu à... David n'a pas reçu la Torah directement d'Hachem. Donc par rapport à Moshe, dans ce domaine-là, il commence même pas à exister. David n'a pas eu à affronter un homme redoutable, dictateur aussi incroyable que Pharaon. Moshe, oui, David, non. David aussi a affronté des gens terribles, mais pas de la dimension d'un Pharaon. Et surtout en tant qu'esclave, en tant que représentant d'un peuple esclave, où il suffit de faire comme ça, ils disparaissent tous. David, lui, s'est battu contre des ennemis très puissants, mais il avait une armée. C'était pas un peuple d'esclaves. Donc, David, par rapport à Abraham, qui a tout commencé tout seul, il était seul au monde quand il a commencé à découvrir et à dévoiler le vrai Dieu. Dans ce domaine-là, il ne lui arrive pas à l'ombre de sa chaussure. Ça veut dire, encore une fois, c'est quoi l'ego ? C'est que je ne vois que moi, dans ma génération, tel que je suis, le plus grand. Mais si tu as la grande image, tu te rends compte que tu n'es rien. Que tu n'es rien. Parce qu'il y en a des milliers d'autres qui, dans différents domaines, tu ne peux même pas te comparer à eux. Et qu'on arrête aussi avec cette stupidité insupportable et mensongère de croire que le Messie, ça va être un petit Dieu. Le Machia sera très grand dans son domaine, mais dans d'autres domaines, ce ne sera pas le plus grand. Je ne cesse de l'enseigner et vous le verrez. Vous le verrez un jour. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que même le Machia lui-même, dans d'autres domaines, il prendra conseil auprès d'autres personnes qui, dans ces domaines-là, sont plus grands que lui. Le Machia sera le plus grand médecin de sa génération? Non, il y aura des médecins plus grands que lui. Ça sera le plus grand sage de sa génération? Non, c'est faux. Même le roi David avait un maître qui était beaucoup plus grand que le roi David. Chaque homme a été créé, mes amis, pour une spécificité dans laquelle c'est sa mission. Alors s'il s'enferme uniquement dans son ego, c'est ça l'ego, c'est que je ne vois que ma mission dans laquelle je suis très grand. Mais si je garde la grande image, je m'apercevrai qu'il y a des tas de gens qui dans d'autres domaines sont infiniment plus grands que moi, et moi je n'arrive pas à l'ombre de leurs chaussures. Donc quand le roi David dit « je suis un lézard », ça veut dire quoi? Pas par rapport à son rôle en tant que roi, car il sait très bien que dans son rôle en tant que roi, il est très grand. Mais l'homme n'a pas été créé que pour être un roi. Il y a des milliers d'autres fonctions dans lesquelles des milliers d'autres hommes sont beaucoup plus grands que moi. Et c'est ça ce qui amène dans l'homme l'humilité. De comprendre que dans ton domaine, tu es très bon. Mais dans d'autres domaines, tu es loin d'être le meilleur. Comme je dis souvent, un Rav, par exemple, qui enseigne la Torah. Bon, mais dans ce domaine-là, c'est son métier, il est très fort, mais dans d'autres domaines, il n'arrive peut-être même pas à l'ombre de la chaussure même d'un non-juif, même si lui, il est Rav de Torah. Parce que peut-être que dans d'autres domaines, même un non-juif qui n'a rien à voir avec la Torah, qui ne l'a jamais étudié, dans d'autres domaines, est peut-être 100 fois plus grand que lui. C'est ça l'humilité véritable. C'est ça l'annulation de l'ego. D'avoir toujours la grande image devant les yeux, de ne pas se restreindre uniquement à ma mission, ma réussite, ma fonction, de comprendre que toi c'est cette fonction et d'autres c'est une autre fonction. Et dans leur fonction, ils sont beaucoup plus grands que toi. Et quelle est la fonction la plus importante? T'en sais rien. Te dis pas que ta mission est la plus importante de toutes. David n'aurait jamais pensé qu'il était plus important que Moshe. Comme Moshe ne pensera jamais qu'il est plus important que David. Moshe se dit « je suis nul devant David » et David dit « je suis nul devant Moshe ». Donc c'est ça encore une fois la destruction de l'ego. De sortir de cette perception trou d'aiguille de l'existence. Il n'y a pas que moi. Et dans d'autres domaines, je ne suis même pas un lézard, je ne suis rien, je n'ai même pas commencé à exister. On continue. Christine, Paro, force immense de l'ego créée par Hachem, nous fait sortir de l'Égypte. Oui, Pharaon, c'est le culte de l'ego par excellence. Il se faisait passer pour un dieu. Quand il allait faire ses besoins, il se cachait pour qu'on puisse penser que ce n'est pas un homme, bien sûr. Alain et Esther, nous vivons dans un monde et un système où ce sont ceux qui ont l'ego les plus forts qui gouvernent et imposent leur volonté. Dans un tel monde, quelqu'un est en train de se libérer de son ego et qui évite de réagir aux critiques non fondées. Comment peut-il survivre et arriver à construire dans ce monde? Parce que la vérité est que lorsque nous... En vérité, le premier qui va véritablement jusqu'au bout, totalement, absolument, arriver à détruire son ego sera le Mashiach. Et c'est comme ça qu'il arrivera à sauver le monde. Je vais donner un exemple très simple, mon ami. Grâce à la technologie aujourd'hui, on peut comprendre des choses extraordinaires. Je suis sur mon ordinateur, d'accord? Je suis en train de voir un film ou lire des choses, un journal, peu importe, des choses passionnantes. Ok? Mais d'un autre côté, si au même moment quelqu'un enlève la prise de l'ordinateur, hop, tout disparaît. Ça veut dire qu'en vérité, c'était très fort ce que je vivais. Mais ça n'existe que dans le virtuel. La preuve, c'est que j'ai enlevé la prise, tout a disparu. Ça veut dire que le monde de l'ego est un monde très puissant, tant que moi-même je fais partie de ce monde de l'illusion. Mais dès le moment où j'arrive à sortir du monde de l'illusion, je me rends compte que ce sont tous des figures virtuelles qui n'existent pas et qui n'impressionnent que ceux qui sont eux-mêmes dans le virtuel. Et d'ailleurs, je vais vous livrer un secret, ça a été ça la force de Moshe. Comment Moshe a-t-il pu avoir le courage de rentrer dans le palais de Pharaon et lui dire « Si tu ne libères pas mon peuple, je te casse la figure. » Mais comment, vous imaginez quelqu'un qui aurait dit ça à Hitler ou à Staline? C'est impossible. Il sait très bien qu'il ne va même pas terminer la deuxième lettre du premier mot, il est déjà mort. Comment Moshe peut venir pendant un an, puisque les 10 plaies ont duré un an, et à chaque fois dire à Pharaon, je te casse la figure encore plus que la dernière fois. Après, il lui dit, je vais tuer ton fils, la mort des premiers-nés. Mais pourquoi? Mais d'où il a cette force? D'où il a cette force? Elle ne me répondait pas comme tous les curés, parce que le bon Dieu était avec lui. Attendez, on n'est pas à l'église ou on n'est pas à la synagogue. On est des humains, des vrais. D'où il avait cette force? D'où? Parce que lui était arrivé, grâce à son humilité, à sortir du monde du virtuel. Et il voyait Pharaon comme une pure illusion. Maintenant, tous ceux qui étaient encore dans le monde de Pharaon voyaient Pharaon comme « Waouh !» Mais lui qui était sorti du virtuel, comme quand tu éteins ton ordinateur, c'est fini, il n'y a plus rien, l'écran est noir. Pourtant, quand tu étais dessus, hein, tu étais « Waouh !» Tu vas au cinéma, tu vois un film merveilleux, passionnant, extraordinaire. Mais ce n'est que du virtuel sur un mur, hein. Moshe, il avait compris que toute la puissance de ce monde n'est que du virtuel. Et ça sera ça la force du Mashiach, plus encore que Moshe, plus encore que tous ceux qui l'ont précédé. Il va tellement sortir de ce monde virtuel que plus rien ne lui fera peur. Et il sera capable d'affronter les pires tyrans. Il n'aura peur de rien parce qu'il saura que tout n'est que du virtuel. Et vous savez où est l'allusion à ce que je dis? C'est la fameuse image que Hachem a montrée justement à Moshe. Le buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. C'est tout le cours d'aujourd'hui. Toi tu le vois qui brûle mais il ne se consume pas. Pourquoi? Parce que c'est une pure illusion. Pourtant tu vois qu'il brûle. Quand Moshe l'a vu brûler, il s'est rapproché pour le voir. Et il a vu qu'il ne se consumait pas. Qu'est-ce que Hachem a voulu lui faire montrer? Le feu, c'est le mal qu'il y a dans ce monde. Tu crois que le mal détruit ce monde? Non. Seulement ceux qui sont dans le monde de l'illusion se voient détruits. Mais ceux qui sont en dehors du monde de l'illusion, grâce au fait qu'ils ont tué leur ego, cela s'aperçoit que le feu n'est qu'une illusion. Le mal n'arrivera jamais à détruire ce monde. Parce que ce monde est tenu par Hachem. Et nous, on croit que les méchants font du mal. Mais en vérité, un jour, on se rendra compte que Azaïnou Kecholmim, on était comme dans un rêve. Comme si Hachem va laisser les méchants détruire son monde. C'est qu'une pure illusion, et c'était ça la force de Moshe. C'est pour ça qu'il a tenu tête à Pharaon, et qu'il n'avait pas peur des menaces. Parce qu'il savait qu'il suffit qu'il débranche la prise et Pharaon disparaît. Il ne tient que grâce à une énergie qui lui donne l'impression d'exister. Et tant que tu es dans l'ordinateur, effectivement, tu es impressionné. Mais dès que tu sors de l'ordinateur, tu aperçois que c'était uniquement du virtuel. Voilà la véritable force des hommes authentiques. Alors, encore une question d'Alain Esther. Il ne sert donc à rien de chercher à changer le monde tant que nous sommes esclaves de notre ego. Absolument, absolument, absolument. Car sous l'emprise de l'ego, tous nos combats ne sont que des illusions. Absolument. Personne ne pourra changer le monde tant que nous serons prisonniers. À 100%, 80%, même 1%, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que dans le monde de l'illusion, tu es impressionné par l'illusion, comme quelqu'un, encore une fois, je m'excuse de me répéter, qui fait un cauchemar, il hurle, il pleure, il crie, mais ce n'est qu'une illusion. C'est un des plus grands secrets incroyables que nous a révélé le roi David en nous disant que quand le Mashiach viendra, on se rendra compte que tout le monde rêvait. Ce monde n'existe pas tel que nous le ressentons. On vit vraiment comme devant un écran de télévision. Il n'y a rien. Et pourtant, on ressent. C'est pour ça que ne peuvent changer le monde que des êtres qui ont cassé leur ego. C'est-à-dire qu'ils sont sortis du virtuel pour rentrer dans le réel. Et donc ils voient le virtuel comme une pure illusion, ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur. Et il y a quantité d'histoires dans la Bible, dans le Nard, dans les enseignements des maîtres d'Israël, dans le Talmud, dans le Midrash, de choses comme ça où on voit que des hommes qui étaient dans une situation de danger sont arrivés à se connecter à Hachem avec une telle émouna qu'il n'y a que Hachem, tout ce que je vois, tout ce que je ressens, c'est qu'une pure illusion. Il n'y a que Hachem, et c'est comme ça qu'ils ont traversé le danger sans qu'ils aient rien. Je raconte souvent cette histoire, et avec votre permission, on va pratiquement conclure cette histoire authentique de quelqu'un pendant la guerre, un juif qui était dans un ghetto, et il a décidé qu'il sort du ghetto. Et comment sortir du ghetto? Et tu t'approches près de la porte du ghetto, tu es fusillé. Et pendant quelques jours, il a fait une grande réflexion intérieure où il a voulu ressentir de toutes ses forces ce que dit le verset. C'est un verset. En od milvado, il n'y a que lui. Il l'a tellement intégré, tellement ressenti, tellement vécu qu'il s'est approché près de la porte du ghetto, il est sorti. Les Allemands ne l'ont pas vu et comme ça, il a pu survivre à la guerre. Sur le chemin, il a rencontré des tas de groupes de nazis qui ne le voyaient pas. Lui, il les voyait, mais eux, ils étaient devant lui, mais ils ne le voyaient pas. Pourquoi? Parce qu'il était dans une autre dimension, il était dans un autre monde. Je sais que ça paraît de la science-fiction. Et vous me connaissez, je suis quelqu'un de très réaliste, je ne suis surtout pas un mystique, ni un moustique. Mais ça, j'y crois. Si quelqu'un vraiment arrive à se connecter au maître du monde avec une force telle qu'il ressent, pas il sait, mais il ressent qu'il n'y a que lui, il sort de la dimension du virtuel, il est dans une autre dimension, et il passait près des nazis, les nazis ne le voyaient pas. Comme si c'était transparent. C'est une histoire authentique, bon ça s'est passé une seule fois dans toute l'histoire de la Shoah, mais une histoire absolument incroyable. Et donc ne peut changer le monde que quelqu'un qui arrivera à sortir complètement de l'illusion de ce monde, et il verra ce monde comme quelque chose de complètement virtuel, et là il pourra défoncer ce monde pour le changer. Ben, celui qui y arrivera sera le Mashiach, tout simplement. Alors, c'est la grande question, puisque l'on doit faire face à des vents de 500 km/h apportés à sa brique, à ce monde relevé du miracle. Voilà, mes amis, on va arrêter pour aujourd'hui. Merci beaucoup, 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 beaucoup pour vos questions qui étaient très fortes. Je pense qu'on a, personnellement, je vous dis très sincèrement, je suis, mais vraiment, moi, ce cours m'a renforcé. Et vous savez, je veux dire, un vrai enseignant, et ce n'est pas un professeur d'université qui transmet de la connaissance. S'il ne vit pas et s'il ne se renforce pas avec ce qu'il dit, alors ce n'est pas de la Torah qu'il enseigne, c'est uniquement de la Bible ou de la connaissance. Moi, ce cours m'a beaucoup renforcé et vraiment, c'est un cours à réécouter parce que c'est un cours qui est très, très, très important de comprendre que finalement, l'ego nous fait vivre dans une dimension qui n'est pas réelle, dans laquelle vivent pratiquement 7 milliards de personnes, et celui qui arrive à casser son ego rentre dans la vraie vie, dans la vraie réalité et arrive à percevoir ce monde comme une telle illusion que plus rien ne l'impressionne, plus rien ne lui fait peur. Et il traverse le monde en ne voyant, n'entendant plus rien. C'est peut-être ça aussi ce à quoi fait allusion Rabbi Nachman, lorsque Rabbi Nachman dit que quand on vient et on t'humilie, tu ne réagis pas, parce que finalement, j'y ai même pas pensé, mais vous voyez que moi, même dans mon cours, je finis par comprendre des choses, que finalement, je comprends que c'est ça ce que veut dire Rabbi Nachman, quand il dit que quelqu'un se fait humilier, il ne répond pas pourquoi. Mais parce qu'il sait qu'il est humilié par une illusion qui n'existe pas. Je ne vais pas me révolter contre du virtuel. Je viens grâce à ce cours de comprendre le véritable sens que dit Rabbi Nachman. Si je ne réponds pas, c'est que j'ai cassé mon ego. Si j'ai cassé mon ego, donc automatiquement, moi je suis dans le vrai monde. Et celui qui m'humilie, lui, est dans l'illusion. Donc comment je vais réagir à du virtuel? C'est comme si vous êtes en train de regarder un film et puis qu'il y a, quelqu'un dans le film qui pointe sur les spectateurs son revolver. Ben, qui c'est qui va se lever et partir? On sait très bien que c'est une illusion, c'est une image. Il n'existe pas, il ne peut rien faire. Il n'existe pas. Si ça se trouve, l'acteur est mort déjà depuis 50 ans. Si vous voyez un film de John Wayne, un western de John Wayne, ça fait des décennies qu'il est mort. Donc vous n'allez pas avoir peur quand il pointe le pistolet sur vous. Et bien c'est ça ce que dit Rabbi Nachman. C'est que si tu es un homme réel, comment tu peux avoir peur de quelqu'un qui n'est qu'une illusion? Donc tu deviens un géant de force. Et c'est exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est que quand tu tues ton ego, tu deviens un vrai géant. Et c'est ça la grandeur. On ne te demande pas de tuer ton ego pour devenir un rien du tout. Quand le roi David dit « Je suis un vermisseau », j'ai expliqué, c'est qu'il a l'humilité de comprendre qu'il est grand dans son domaine, mais il est minable dans différents d'autres domaines dans lesquels il y a plus grand que lui. Mais quoi qu'il en soit, dans son domaine, c'est un géant, parce qu'il est rentré dans la vraie vie. Voilà mes amis, à tous et à toutes, merci, merci, merci beaucoup et à très 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 bientôt.